Après le succès de L'Emprise, découvrez Quinquennat, le nouveau roman de Marc Dugain. L'histoire d'un homme qui ne vit que pour le pouvoir, qui manipule, orchestre, détruit. Mais que fera-t-il une fois le pouvoir suprême entre ses mains? Parce qu'en politique, il y a des vérités que seul un roman peut dévoiler. Lisez Quinquennat de Marc Dugain aux éditions Gallimard et retrouvez L'Emprise en folio.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Une exposition sur les Tudors se tient actuellement au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet. Franck Ferrand en profite pour nous parler aujourd'hui de cette lignée de souverains anglais. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Anglais et sanglant, n'ayons pas peur des mots. D'Henri VIII, évidemment, à Élisabeth Ière, on ne peut pas dire que les Tudors aient brillé par la douceur, comme le savent notamment deux de nos auditrices qui, visiblement, sont très intéressées par la question, Marie de Lyon et Anne, nous les saluons toutes les deux. Alors, la pire de tous ces Tudors, c'était sans doute la première fille d'Henri VIII, Mary, que l'histoire a retenue sous le nom de Bloody Mary, vous savez, Marie la sanglante. Je vais vous parler d'elle avant de recevoir une grande spécialiste de cette famille, la chère Liliane Crété.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Thierry et de Sophie, qui souhaitent connaître respectivement l'origine de la poignée de main et du mot shérif.
Autant dire deux questions bien distinctes et qui vont donc appeler des réponses distinctes. Pour le moment, pardon, mais nous avons du sang sur la planche.
Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Voici une famille qui a donné à l'Angleterre trois rois et deux reines. Ces Tudors qui nous viennent du Pays de Galles et qui vont régner sur l'Angleterre à travers Henri VII. C'est le premier roi, on n'en parle jamais, mais nous allons le découvrir tout à l'heure en compagnie de Liliane Crété. Son fils Henri VIII, alors lui, c'est le plus célèbre de tous les rois d'Angleterre, bien entendu. Et les enfants d'Henri VIII. D'abord, Édouard VI, qui a carrément disparu des annales et qui est passé à la trappe. Nous nous demanderons pourquoi tout à l'heure. Bien sûr, la dernière, c'est Élisabeth, la reine vierge, Élisabeth Ière. Ce règne élisabétain dont la lumière n'en finit pas d'éblouir les historiens de la civilisation britannique. Et puis, coincé entre Édouard VI et sa sœur, sa demi-sœur Élisabeth, cette fameuse Mary, Mary Tudor, dont l'histoire a retenu le surnom Bloody Mary, Marie la sanglante. Eh bien, c'est elle dont je vais maintenant, si vous le voulez, vous brosser le portrait. Elle était née, cette Marie, tôt dans le règne de son père. Elle est née le 18 février 1516 et elle est non seulement la fille du roi Henri VIII, bien sûr, mais elle est surtout la fille de Catherine d'Aragon. Henri et Catherine étaient mariés depuis 1509. La petite Mary naît comme son père était né, d'ailleurs au palais de Placentia, sur les bords de la Tamise, on est un petit peu plus haut que Londres. Et cette naissance est considérée comme un véritable miracle, puisque sa mère Catherine a été enceinte à 4 reprises, qu'elle a déjà mis au monde 2 fils qui sont morts en bas âge, que les 2 autres grossesses se sont terminées par des fausses couches. Quand naît Mary, on n'en croit pas ses oreilles. Hein. On se dit, mais est-ce que la nouvelle est vraie et est-ce qu'elle va vivre, cette petite fille? Eh bien oui, elle a un caractère qui, semble-t-il, est d'emblée très fort, une nature, une constitution qui lui permettent de survivre. Elle va vivre. Et 3 jours après sa naissance, elle est baptisée selon la tradition royale. Baptisée dans la foi catholique, parce qu'à cette époque, son père est encore tout à fait catholique, bien sûr. Alors, elle reçoit une éducation absolument excellente. Sa gouvernante, la comtesse de Salisbury, Margaret Poole, est tout à fait remarquable. Sa mère aussi est beaucoup plus remarquable qu'on a pu le dire. Catherine d'Aragon a des idées relativement ouvertes sur l'éducation. Elle prend conseil auprès d'un certain nombre de grands esprits, et notamment l'humaniste espagnol Vives, à qui d'ailleurs elle commande un traité sur l'éducation des filles. Et là, on va voir la toute petite Mary s'installer au clavecin pour pour apprendre à jouer du clavecin. À 9 ans, elle sait lire et écrire en latin, mais elle étudiera également le français, l'espagnol évidemment, qui est la langue de sa mère, la danse, la musique, etc. Quant au roi, ne croyez pas que, même si évidemment Henri VIII aurait préféré un garçon, il attendra cet héritier, il attendra ce garçon toute sa vie. Mais néanmoins, il adore sa fille. Il va la vanter un jour auprès d'un ambassadeur vénitien en assurant qu'elle ne pleure jamais. Il en est très fier et très content. Alors on a essayé très vite de la marier. On a pensé la marier à Charles Quint. On a pensé à la marier au roi François Ier qui était devenu veuf, ou au fils de François Ier, le deuxième fils, Henri d'Orléans. Finalement, en 1525, alors qu'elle n'a que 9 ans, elle est nommée princesse de Galles. Elle reçoit sa propre maison, elle va être installée au château de Ludlow, toutes sortes de prérogatives royales. Bref, elle est devenue une sorte de petite reine en réduction. Elle est l'héritière de son père, d'une certaine manière. Le problème, c'est que le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon est épouvantable. Ça va de plus en plus mal. Le roi et son épouse ne s'entendent plus du tout. Et surtout, Henri VIII attend un héritier. Il attend un héritier mâle. Il voudrait faire annuler son mariage par le pape. Or, le pape de l'époque, qui est le pape Clément VII, refuse l'annulation de ce mariage. C'est une période, ça, qui a été très dure à vivre pour la petite Marie. Il faut se mettre à sa place. Sa mère n'est plus bienvenue à la cour. Sa mère va même bientôt devenir le mouton noir de son propre père. Et elle va faire les frais de ces disputes, comme très souvent entre parents qui ne veulent plus vivre ensemble. Le roi va bientôt interdire à sa fille de voir sa mère, de voir Catherine. Elle est envoyée vivre à l'écart de la cour, au château de Kimbolton. C'est très dur ce qui se passe, et d'autant plus que le père a une maîtresse, Anne Boleyn, que cette maîtresse, il l'impose partout, et que bientôt, il va se marier avec elle. Vous imaginez cette histoire? Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury, va annuler officiellement le mariage d'Henri avec Catherine. On est là au début de 1533. On apprend en même temps qu'Anne Boleyn est déjà enceinte. Marie, à l'époque, à 17 ans. Elle est déclarée illégitime. On la déclare incapable de réclamer le trône d'Angleterre à la mort de son père. Et c'est une perte de privilège, une perte de statut. C'est presque une perte d'existence pour elle. Mettez-vous quand même à la place de cette toute jeune fille qui se trouve humiliée complètement. On va bientôt voir naître sa demi-sœur, Élisabeth, qui est la fille adorée d'Anne Boleyn. Et Élisabeth a tous les droits, Élisabeth est l'héritière. Et pire que ça, on ira jusqu'à nommer Marie dame d'honneur d'Élisabeth, vous imaginez? Et on l'oblige à reconnaître sa propre déchéance. Tout ça est terrible. Alors finalement, Anne Boleyn va être disgraciée, vous le savez, assez vite, somme toute, en 1536. Henri VIII, à cette époque, acquiert cette réputation de roi de fer qui désormais restera attaché à son règne. C'est un homme qui perd ses repères. C'est un homme qui va devenir tyrannique. Il empêche Marie d'aller rendre visite à sa mère qui est malade, à sa mère qui est à l'agonie et qui mourra sans le secours de sa fille. Et c'est donc cette même année qu'a lieu le coup de théâtre. Anne Boleyn perd les faveurs du roi, elle est décapitée. Élisabeth, à ce moment-là, perd son titre de princesse héritière, elle est écartée de la succession. Qui va succéder? Est-ce que Marie va enfin retrouver ses droits?
Extrait du générique de la série télé Les Tudors sur Europe 1, une musique signée Trevor Morris. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Marie Tudor.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de la dynastie Tudor cet après-midi, et Franck Ferrand, vous vous intéressez particulièrement à Marie Tudor.
Il faut faire ici mention d'une personnalité extraordinaire, Jane Seymour, qui donc va être la nouvelle épouse du roi et qui va réconcilier le roi avec ceux dont il s'était écarté et notamment avec sa fille Marie. Le roi est d'accord pour revoir Marie. Il est d'accord pour que Mary revienne à la cour, mais à certaines conditions. Et notamment, il faut que Marie reconnaisse le statut de chef suprême de l'Église d'Angleterre, statut que s'est donné son père. C'est très dur, ça, pour une jeune princesse totalement catholique, qui est restée fidèle au pape, qui vit dans, dans la mouvance de la cour d'Espagne, dans l'observance des grands principes catholiques, et qui va devoir reconnaître comme chef d'une Église dont elle ne veut pas, ce propre père qui l'a par ailleurs persécutée moralement. C'est très dur tout ça. Jane Seymour va finalement mourir en donnant naissance à un fils, Edward. Ce sera le futur roi Edward VI. Et Mary est choisie pour être la marraine du nourrisson. En 1543, voilà donc Henri VI avec une nouvelle épouse. Celle-ci s'appelle Catherine Parr. Le roi réintègre ses filles dans l'ordre de succession. Mais la troisième loi de succession au trône fait de Mary l'héritière potentielle après son demi-frère Édouard, avant sa demi-sœur Élisabeth. On a presque envie de dire que Henri est devenu raisonnable de ce point de vue et qu'il admet que ses trois enfants, issus de trois mariages différents, puissent lui succéder. Alors d'abord le garçon, bien sûr, Édouard, mais pourquoi pas les deux filles ensuite ? Premièrement Mary, deuxièmement Élisabeth. C'est intéressant ça parce que c'est exactement ce qui va se passer. L'ordre de succession est exactement l'ordre historique puisqu'on va voir succéder à Henri VIII, Édouard VI d'abord, puisque Henri VIII finit par mourir en 1547 au palais de Westminster. Et puis, après Édouard VI, donc Mary la sanglante. Alors, évidemment, le règne d'Édouard VI aura été un règne épouvantable. Il a été très court, il a été très chaotique, même si finalement le royaume s'est plutôt enrichi pendant cette période. Et ce règne, en vérité, il est sous la houlette d'un personnage important qui est le duc de Somerset, le protecteur du roi, Édouard Seymour. C'est lui qui tient réellement les rênes du pouvoir. Pendant tout ce temps, Mary observe les choses. Après tout, elle est la marraine de son petit frère. Elle demande à son cousin Charles Quint d'exercer un certain nombre de pressions, des pressions diplomatiques, des pressions économiques, mais aussi morales, pour qu'elle puisse continuer de pratiquer sa religion dans un pays qui est devenu un pays protestant, bien entendu. Lord Thomas Seymour est un peu, il est l'oncle du roi Édouard VI, hein, il est le personnage important de ce règne. Il va courtiser un certain nombre de femmes, dont la toute dernière femme du roi Henri VIII d'ailleurs. Tout ça est difficile. Il est arrêté, il est accusé d'avoir comploté contre le roi Édouard VI. Il va finir sur l'échafaud. Tout ça, c'est un choc de plus pour Marie. La condamnation de Thomas Seymour achevait de tuer en elle tout sentiment humain, estimera Juliette Benzoni. Elle se sentait avide de sang, de pouvoir, comme l'avait été son redoutable père. Et voilà qu'en 1553, c'est-à-dire après donc ce très court règne, Édouard VI vient à mourir à Greenwich. Il avait seulement 15 ans, il meurt d'une affection des poumons. Et qui doit lui succéder ? Eh bien, c'est Mary. Sauf que, ne l'oubliez pas, Mary est demeurée catholique. Mary n'a pas l'intention du tout d'abjurer sa foi catholique pour devenir reine d'Angleterre. Or, avant de mourir, Édouard VI a désigné sa cousine, Jane Grey, comme future reine. Il viole donc l'acte de succession par crainte de voir l'Angleterre basculer dans le catholicisme. Ça, pour Marie, c'est un coup supplémentaire. Elle va se réfugier au château de Canning Hall, où elle organise en vérité non seulement sa vengeance, mais on peut le dire, la succession qu'elle entend bien assumer pleinement. Elle est la fille de son père, elle est le successeur désigné d'Édouard VI, eh bien, elle va monter sur le trône. Qui est Jane Grey ? Il faut imaginer une très jolie jeune femme, très instruite, elle a 16 ans, elle a un mari, Lord Guildford Dudley, qui est le fils de John Dudley, celui qui a voulu enlever Marie et sa demi-sœur Élisabeth pour les retenir en otage à une autre époque. On peut dire que tout différencie Jeanne Grey de Marie Tudor. Seulement, Jeanne Grey n'a jamais été faite pour être reine. Ça tombe bien, parce que Mary, elle, est convaincue qu'elle est faite pour. Le duc John Dudley va mobiliser 10 000 hommes, mais Marie, en même temps, en réunit quelques 30 000. Ce sont des catholiques, et si vous me passez l'expression, ce sont des catholiques fanatisés. On peut dire que du côté de Dudley et de Jeanne Grey, c'est perdu d'avance. Jeanne est déposée après 9 jours de règne seulement. Elle est enfermée à la tour de Londres, comme son beau-père, comme son mari et comme l'évêque de Canterbury. Et en juillet 1553, c'est Mary Tudor qui devient la reine d'Angleterre et d'Irlande. Elle est couronnée quelque temps après à l'abbaye de Westminster. Elle est convaincue de récupérer enfin des droits qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Et elle est bien décidée à mettre l'Angleterre entière en coupe rayée.
Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire.
Et au cœur du règne de Marie Tudor en Angleterre, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin de celle que l'histoire va surnommer Marie la Sanglante.
L'un des premiers actes de la reine Mary, de Marie Tudor, c'est d'avoir procédé à la mise à mort de Jeanne Grey, qui est condamnée à être décapitée. Le 8 février 1554, on lui annonce sa mort, elle va monter sur l'échafaud. Son regard à ce moment-là se porte sur les spectateurs qui sont là, qui viennent assister à l'exécution, et elle s'adresse à eux d'une voix ferme. « My lord, et vous, bon peuple, dit-elle, ma sentence est équitable, non pas que j'ai usurpé l'autorité royale volontairement, mais j'ai consenti par l'entraînement à un acte coupable. En cela, j'ai violé la loi et je mérite d'être puni par la loi. Mes juges ont présumé que j'avais adhéré librement. Dieu m'inflige la mort avec justice, je ne me plains pas. Je remercie au contraire mon Rédempteur de m'avoir ménagé le temps d'expier mes fautes. My lord et vous, bon peuple, je vous conjure d'être les témoins que je meurs en chrétienne et vous supplie de prier avec moi et pour moi. » Et voilà déjà la hache, parce que c'est ainsi en Angleterre, la hache qui s'abat sur le fragile col de Jeanne Seymour. Cette exécution est un choc pour l'Europe entière. Diane de Poitiers, en France, et pourtant Diane de Poitiers est l'ennemie des protestants, elle écrit à Madame de Montaigu: « On vient de m'apporter la relation de la pauvre jeune reine Jeanne et je n'ai pu m'empêcher de pleurer à ce doux et résigné langage qu'elle tint à son supplice. Est-ce qu'elle l'a véritablement tenu, le discours que je vous ai lu, ou est-ce qu'on le lui a fait tenir ? Ça, c'est une autre question. » Désormais, il faut néanmoins à Mary les moyens de gouverner. Et pour commencer, il lui faut un époux. Un époux pour avoir des enfants et pour empêcher sa demi-sœur, la protestante Élisabeth, de s'emparer du trône. Qui Marie pourrait-elle épouser ? Eh bien, d'après vous, elle va épouser, bien sûr, le fils de Charles Quint. Elle va épouser le prince Philippe d'Espagne. Il a 26 ans, il est beau, il est veuf depuis la mort en première noce de Marie de Portugal. Seulement, il y a deux obstacles à l'union. D'abord, un incroyable écart d'âge, puisqu'elle a quand même 11 ans de plus que lui. Et, entre nous soit dit, Mary Tudor porte vraiment bien ses 37 ans. Un contemporain écrit « La reine n'a point de beauté, elle est trop maigre et sans fraîcheur, et dépourvue de sourcils, c'est une femme agréable et en parfaite santé, mais de plus, elle s'habille fort mal. » Eh bien, la voilà, entre nous, habillée pour l'hiver. Et puis, et ça c'est le deuxième inconvénient, c'est que ce mariage risque de faire grincer des dents. Les protestants craignent que l'Angleterre ne devienne une monarchie catholique. Ils voient en l'Espagne le pays de la terreur, de l'inquisition. Une révolte va dès lors s'organiser. Une révolte qui est menée par un poète, Thomas Wyatt, qui est soutenu en sous-main par la demi-sœur de Mary, la protestante Élisabeth, une révolte qui va être matée par Marie Tudor. Quand je dis qu'elle est matée, c'est dans le sang, vous l'imaginez. Wyatt est exécuté, tous ses complices avec lui, bien entendu. Le 1er juillet 1554, Mary entre à Winchester, où doit avoir lieu le mariage avec le prince Philippe d'Espagne, mais disons-le, sa robe est définitivement ensanglantée. Alors, puisque je vous parle d'une robe, sachez que pour ses noces, Marie porte une robe blanche et argent ornée de perles. Sa coiffure blanche ruisselle de diamants et sur sa gorge découverte pendent d'autres diamants. Elle est un peu fardée, sa main tremble sur le satin de la robe, Le prince est introduit, Mary a une exclamation admirative, lui est vêtu de satin blanc et d'énormes pierreries. Elle est heureuse de parler espagnol, ça c'est un héritage de sa mère, lui ne connaît pas un mot d'anglais, ça va permettre de faciliter les relations entre les deux époux. Le 2, le cardinal de Winchester unit la reine Mary à Philippe d'Espagne. Elle devient reine de Sicile et de Naples, reine titulaire de Jérusalem. Et le soir, le cardinal de Winchester va bénir le lit nuptial, comme ça se passait à l'époque. Comment s'est passée la nuit de noces entre ce jeune mari très austère et cette vieille fille non moins austère? Voilà ce que Noailles, notre ambassadeur, a écrit à Henri II. On me dit qu'à certains moments pendant la nuit, la reine est si possédée par son amour, si obsédée de désir, qu'elle ne se connaît plus. Eh bien, un aspect caché de la reine Mary Tudor, un aspect qu'on était loin d'imaginer. En septembre 1554, la reine est déclarée enceinte. Elle grossit, elle enfle, sa figure devient bouffie, seulement les mois passent, 9 mois. 10 mois, 11 mois, toujours rien. Le berceau prêt à accueillir l'enfant est vide. Les médecins ne disent rien, mais plus personne ne croit à la naissance de cet enfant. Et finalement, un médecin irlandais très réputé a le courage de dire à la reine la vérité. Cette vérité, c'est qu'elle n'a jamais été enceinte. Elle souffre simplement d'une hydropisie ovarienne. Depuis son mariage avec Philippe, Mary est persuadée de la nécessité de faire de l'Angleterre et de l'Irlande une terre catholique. Et elle va le faire dans la douleur. Les exécutions commencent assez vite dans le règne. Des évêques, un pasteur, un prêtre sont assassinés parce qu'ils avaient retourné leur soutane, si je puis dire, et qu'ils étaient devenus protestants. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards furent exterminés, nous dit Juliette Benzoni, passés par les armes, pendus, brûlés. Les bourreaux, le cardinal Reginald Pole semblait infatigable, et Mary elle-même, persuadée que tout ce sang ramènerait Philippe, n'en voyait même plus l'horreur. On comprend qu'elle ait été surnommée Marie la Sanglante. Elle devient reine consort d'Espagne en même temps, bien entendu, avec toutes les terres afférentes, bien entendu. En janvier 1558, le duc de Guise s'empare de Calais, qui était la dernière possession anglaise dans le royaume de France, ça durait depuis 200 ans. Ça sonne un peu ça, comme le chant du cygne de Mary première, de Mary d'Angleterre, qui commence à être malade. L'année 1558 est désastreuse pour elle et elle va mourir le 17 novembre de cette même année au palais St. James, à Londres. Elle repose à l'abbaye de Westminster, mais pour tout vous dire, sa tombe n'est jamais, jamais fleurie. Bonjour Liliane Crété.
Bonjour.
Pour vous, les Tudors n'ont aucun secret. Nous allons, en votre compagnie, revenir bien sûr sur le règne de Marie la Sanglante, mais pas seulement. Nous parlerons de ceux qui l'ont précédée et de ceux qui lui ont succédé, plutôt de celle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La maison Tudor est au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, vous recevez l'historienne Liliane Crété, docteur en civilisation et littérature anglo-américaine, auteur du beau livre « Les Tudors » paru aux éditions du Chêne.
Avant de revenir avec vous, Liliane Crété, sur l'extraordinaire règne de cette Mary la Sanglante, je voudrais rendre hommage aux éditions du Chêne. Je ne fais pas ça souvent, je ne rends pas souvent hommage aux éditeurs.
C'est un superbe livre.
Ah oui, et notamment à votre iconographe, Aude Le Pichon, qui a fait un travail magnifique.
Magnifique.
C'est tout simplement riche.
Absolument.
On a l'impression, en feuilletant le livre, de se promener dans le 16e siècle.
Elle a fait un travail remarquable. C'est pour ça que je peux dire, malgré que ce soit moi qui ai fait le texte. Je dis non, c'est un splendide livre parce que je pense à elle.
Eh oui, vraiment. Mais le texte est également très beau. Et sur Mary, vous dites, pour ses contemporains, ceux du moins acquis à la réforme, Mary Tudor fut Jézabel, l'épouse du roi Achab qui avait entraîné le roi à servir les idoles.
Absolument.
Et ordonné le massacre de tous les prophètes d'Israël. La postérité la surnomma Bloody Mary, Marie la Sanglante. Les historiens presque unanimement reconnaissent qu'elle fut néfaste à l'Angleterre. Est-ce que ça n'est pas un travers d'historien protestant? Demandais-je à Liliane Crété.
Qui est protestant? Non. Elle a été calamiteuse. Elle avait reçu une très bonne éducation, mais elle a souffert, ce qui est normal dans sa jeunesse.
C'est ce que je racontais, c'est cette espèce d'impression de n'être jamais à sa place.
À sa place, alors que quand il a eu Elisabeth, par exemple, c'était la princesse Elisabeth, elle était juste Lady Mary. Et puis il l'avait séparée de sa mère. Du coup, comme tout venait de son père, elle s'est mise à détester les Anglais.
Ça, c'est étrange. C'est-à-dire que pour elle, toutes les vilenies qu'avait subies sa mère et cette réforme qui, pour elle, était véritablement une forme d'abomination, elle les a identifiées au peuple britannique. C'est
étrange,
ça.
Oui, c'est très étrange.
Elle ne voulait pas désigner son père comme responsable ?
Si, elle le désignait pas trop, mais lui, il lui a fait une chose épouvantable que l'on ignore souvent, c'est qu'il l'a forcé à reconnaître qu'il était le chef de l'Église, que son mariage avec la mère de Mary avait été illégitime à cause de la fameuse loi du Lévitique, et que de ce fait, elle n'avait pas le droit au trône.
Elle avait renoncé au trône.
Elle a donc renoncé sous la contrainte. Et tout ça, ça avait été, évidemment, ça l'avait marqué.
Que cette femme a été meurtrie, comme peuvent l'être certaines figures royales dans des périodes de révolution.
Oui.
Et somme toute, ce qui s'était passé pendant le règne de son père, on va y venir dans un instant, bien sûr, c'était quelque part une révolution. Elle l'avait vécu, elle l'avait subi, elle avait fait tout ça à son corps défendant. On a l'impression, en quelque sorte, que les énormes couleuvres qu'elle avait dû avaler, elle les a ensuite, si je puis dire, l'image n'est certes pas très élégante, mais elle les a recrachées pendant le cours de son règne.
Mais vous savez qu'après avoir justement reconnu son illégitimité, reconnu que son père était le chef de l'Église d'Angleterre, elle a fait venir, en cachette bien entendu, un envoyé de Rome pour avoir l'absolution du pape, parce qu'elle se sentait en plus coupable vis-à-vis de l'Église d'avoir fait ça. Alors tout ça, vous voyez, ça a mijoté, ça en a fait une femme hystérique, peu fiable, et alors je vous dis, elle a surtout pris le peuple.
Mal entourée, il faut le dire.
Mal entourée, ah oui, non mais c'est volontaire, elle a repris que des gens d'Église, catholiques, mais vraiment catholiques romaines, vous voyez ce que je fais. Ils n'étaient pas tellement anti-catholiques, les Anglais, ils étaient anti-romains.
Ils étaient contre le pape, pour
parler. Ils étaient contre le pape, mais à un point comme aucun pays n'a jamais été contre le pape. Des classes entières qui étaient contre le pape. Et c'est comme ça que la réforme a passé. C'est si bien.
Elle se sentait beaucoup plus la fille de Catherine d'Aragon que d'Henri VIII.
Aragon.
Elle était l'épouse du roi d'Espagne.
Elle a voulu justement un roi espagnol comme mari.
Eh oui.
Enfin, futur roi. Et lui a été très intéressant parce que, je ne suis pas un roi passionnant, contrairement à son père.
Philippe
c'était
II.
Vraiment un administrateur, mais enfin, on ne peut pas dire que c'était un grand roi qui a du charisme ou tout ça. Moyennant quoi, il se rendait compte très bien, et Charles Quint aussi, que plus elle persécutait les protestants en Angleterre, plus l'Espagne était considérée comme l'ennemi numéro un. Et ça, il s'en est rendu compte tout de suite, Charles Quint, au point que quand son fils est parti pour épouser la reine, il est arrivé avec des serviteurs qui étaient en réalité des soldats, et son propre cuisinier, tellement il avait peur d'être empoisonné.
On peut vraiment dire qu'il y avait là une paranoïa généralisée.
Une paranoïa généralisée d'un côté et de l'autre.
Et ce qui veut peut-être moins vous faire plaisir, c'est qu'à mon avis, il y a quand même dans cette reine Marie tous les traits distinctifs de la maison de Tudor. Finalement, elle avait le caractère de son père et elle avait le caractère de sa demi-sœur.
Oui, ce étaient tous des gens de caractère extraordinaire. Hein. Mais là, elle a déraillé, on ne peut pas dire. Parce qu'il faut se comprendre avec le fanatisme de l'époque, les Anglais ne sont pas fanatiques. Et au point de vue religieux, ils sont surtout, ce qui les intéresse, c'est l'éthique, plus qu'autre chose. Pas trop la théologie. Et donc, ils sont modérément catholiques et modérément protestants. Ce qui fait que la réforme s'est passée plutôt bien.
Oui, plutôt en douceur.
Tandis que elle, au contraire, ça a été...
Est-ce qu'on peut dire que c'est une parenthèse négative, voire néfaste, dans l'histoire d'Angleterre?
Ah oui, d'abord parce qu'elle a vidé les caisses. En plus, pour aider l'Espagne, toujours pareil, avec cette idée que l'Espagne, ça comptait plus que l'Angleterre, elle a aidé Philippe II qui lui demandait des sous, à cause d'elle, on a perdu Calais, enfin on a perdu, les Anglais ont perdu Calais,
voilà le lapsus que j'attendais depuis le début. Bon. Alors revenons, si vous le voulez, Liliane Grédet, à l'origine de cette dynastie, à Henri VII, quand même.
Roi remarquable. Que personne ne connaît.
Personne. On parle toujours de son fils, évidemment, par définition.
Oui, il est tellement imposant. Non, alors, les Tudors étaient une famille galloise qui se sont battus dans les problèmes de la guerre de 30 ans, entre les Lancastres et les York. Lui appartenait par sa mère aux Lancastres, mais c'était une famille Tudor, qui n'avait pas de sang royal vraiment.
C'est ce qu'on appelle la guerre des Deux Roses. Je dis ça pour les auditeurs français qui ne sont pas très familiers de l'histoire
anglaise.
La
guerre des Deux Roses entre les York et les Lancastres, qui descendaient tous deux des rois plantagenets.
Alors, finalement, le roi Richard III, qui a fait l'objet de cette merveilleuse pièce de Shakespeare...
Il n'est pas très exact, il l'a noirci.
Ben forcément, et pour cause, puisque son rôle était de faire briller les Tudors.
Briller les Tudors, exactement. Alors, il a été injuste, mais enfin, il faut reconnaître quand même qu'il a certainement fait disparaître ses neveux.
Richard.
Oui, parce que sinon, il a été un grand administrateur, il a servi fidèlement son frère... qui était donc le roi, pendant des années sans rien réclamer.
Ses neveux, enfin son neveu aurait dû devenir le roi.
Le roi, bien Edouard. Sûr, il y avait deux neveux. Oui.
Et malheureusement...
Mais ils ont disparu.
Oui.
Alors là, c'est le mystère entier. Bon, tout le monde sait qu'il est derrière.
Ouais.
Mais ce n'est pas du tout le monstre tordu. Mais il fallait que physiquement, on voit la noirceur de son âme,
voilà,
si
voilà,
vous
exactement.
Voulez. D'où tordu, je crois qu'il avait un bras
difforme,
qui ne marchait pas très bien, c'est tout.
C'est très amusant à jouer pour les comédiens, bien entendu. Pour
ça doit être extraordinaire.
Dans le théâtre shakespearien, ça fait partie de ce qu'il y a de plus extraordinaire. Alors, comment Henri Tudor devient-il le roi Henri VII?
Alors, ils sont tellement entretués pendant la fameuse guerre des Deux Roses, les Lancastres et les York, qui s'est retrouvé, alors qu'il était un lointain parent, il s'est retrouvé à la tête des Lancastres. Il ne restait plus que lui. Donc, il a représenté les Lancastres. Il était à ce moment-là en exil en Bretagne, où il est resté 14 ans, je crois. Et il a organisé une expédition pour chasser Richard III. Et c'était facile étant donné que les gens, depuis l'histoire des deux neveux, avaient pris en horreur dans l'ensemble du peuple. Donc il avait réuni des Français, des Écossais, des Yorkais qui étaient
dissidents.
Les adversaires de Richard. Et à la bataille de Boswell Field, il a vaincu. Alors ce qui est magnifique dans cette bataille, que moi historienne de l'époque, ça m'amuse beaucoup, c'est que Richard III était le dernier roi à se battre avec sa couronne sur la tête.
Ah, il avait la couronne fichée sur le haume.
Oui.
Alors là, les Anglais l'ont réinhumé récemment et en grande pompe, qui plus est.
Oui, je crois, j'ai pas entendu.
Ça a été un événement qui a été même télévisé, etc. Il y a eu de grandes cérémonies pour sa réinhumation
officielle.
Oui, parce que
vraiment, on a été beaucoup trop dur avec lui. Puis finalement, on n'a pas de preuve de la...
Puis les Anglais aiment bien réhabiliter les vieux rois, comme ça fait partie de leur
charme.
Et alors,
cette couronne... Un chevalier qui était là l'a mis sur la tête, ça c'est peut-être la petite histoire, l'a mis sur la tête d'Henri, qui de fait a conquis la couronne. Ça, alors personne ne lui a nié ça.
Il l'a conquise, mais de haute lutte et dans un climat d'incertitude.
Tout à fait.
Vous savez, et ça je le dis parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, l'histoire nous paraît, nous, évidente. Il y a ce phénomène dont nous parlions juste avant que ne commence cette émission, ce phénomène de téléologie qui fait qu'on a constamment tendance à vouloir juger de l'histoire à partir de ce que nous savons. Mais les gens qui la vivent, eux, ne savent pas. Henri VII, comme son fils Henri VIII d'ailleurs, vont vivre dans la permanente hantise de perdre cette couronne chèrement acquise. C'est ce que nous voyons ensemble dans un instant.
Exactement.
Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Pour le mariage du roi interprété par Jordi Savall sur Europe 1. Retour en Angleterre, les Tudors sont au cœur de l'histoire ce vendredi. Votre invité Franck Ferrand, l'historienne Liliane Crété, auteur du livre Les Tudors, paru aux éditions Duchesne.
Henri VII vient à mourir au milieu des images pieuses, etc. Il meurt de façon très religieuse.
Il a eu une crise parce qu'il était pas comme ça.
Une sorte de mystique à la fin, comme ça. Et c'est son fils, donc, qui devient le jeune et fringant roi Henri VIII. Magnifique, il faut le dire, au début de son règne.
Et alors, il a été, autant son père était parcimonieux, il vivait vraiment, on sait tout juste s'il y avait des chandelles dans sa chambre, enfin. Et lui, au contraire, les coffres étaient pleins, Il avait été à ce point de vue-là extraordinaire, Henri VII pour...
Henri VIII va se charger de les vider, lui.
Exactement, et rapidement.
Avec un goût du luxe effréné qui paraîtra tout particulièrement lors de la célèbre entrevue du camp du Drap d'Or,
du Drap d'Or, 1530,
avec François Ier, bien entendu. Un goût pour la chasse, pour les balais, les banquets, etc. Un vrai prince de la Renaissance.
Ah,
et
oui.
C'est vrai, il a été éduqué de cette manière-là.
Oui. C'était extraordinaire, la richesse de ce qu'ils apprenaient. Enfin, aucun étudiant maintenant ne supporterait toute cette culture extraordinaire.
Savoir encyclopédique, qui va faire d'Henri VIII un lettré, un juriste,
absolument,
un théologien, il était tout à la
il
fois,
était tout
lui,
à
même
la
médecin
fois.
Amateur.
Oui, et puis alors, musicien, il a composé une messe, il a fait des traités de théologie, et en même temps, c'était un athlète, un jouteur extraordinaire, et qui ne rêvait que d'une bataille, il n'y avait pas de bataille de son temps. Son père avait réussi à pacifier tout le monde, et il se voyait en roi chevalier, et comment se battre?
Aujourd'hui, quand on pense à Henri VIII, on pense évidemment à Barbe Bleue. Il est l'homme qui
c'est
a tué ses
tort.
Femmes. Hein. Mais alors voilà, vous l'avez déjà à ce même micro, je me rappelle très bien,
oui,
que vous l'aviez réhabilité.
Oui.
Résumons en deux mots. Son mariage, son premier mariage, tout ce qu'il y a de plus légitime, est avec une princesse espagnole,
voilà,
Catherine
d'Aragon.
D'Aragon, tout ce qu'il y a de plus catholique, mais à l'époque il est catholique lui
mais
aussi,
oh,
du reste.
Oh là là, oui, il a défendu le pape, il a même fait un traité.
Alors,
pour
elle,
défendre
son
le pape.
Rôle à elle, c'est de lui donner des enfants, elle va lui donner des fils, mais il meurt, c'est ça
il
le
meurt,
problème.
Absolument. Et c'est ça que le drame de tous ces Tudors, c'est presque une sorte de ligne qui suit chaque...
On pourrait parler d'une malédiction sans
ou
aller
une malédiction,
trop loin.
C'est que comme il savait très bien qu'ils n'avaient pas hérité vraiment de la couronne, mais qu'ils l'avaient conquise, ils avaient peur qu'il y ait toujours quelqu'un plus proche du trône qu'eux, et qui disent, mais comment, vous n'avez pas d'enfant, allez, c'est à nous.
Catherine lui a donné notamment cette fille qui, elle, a survécu,
Marie
dont nous avons parlé tout à l'heure, Marie Tudor,
qui a
été cette reine sanglante. Et puis, c'est tout. Et donc,
c'est tout.
Bientôt, il va se lasser, Henri. Il va vouloir épouser une autre princesse. Et alors, plutôt qu'une princesse, il se trouve que c'est une jeune et somptueuse, merveilleuse dame de la cour, dont il s'éprend.
Très jeune.
Et alors son amour, sa passion sont telles qu'il va vouloir divorcer, ou plus exactement faire annuler son mariage.
Faire annuler pour pouvoir justement avoir un enfant légitime.
Sauf que le pape n'est pas d'accord.
Non.
Et ça, ce sera l'origine de la rupture de
la
monarchie anglaise avec la papauté.
Oui. Or, le pape aurait très bien pu annuler. Il y a eu des annulations...
Pour bien moins que ça, il y en a eu des quantités.
Des quantités.
Oui.
Pour moins que ça, exactement. Oui. Surtout là, quand il s'agissait justement d'avoir un fils, etc. Non, il avait très peur de Charles Quint. Quand,
le pape avait peur de Charles Quint.
Oui, bien sûr. Quand Henri VIII a envoyé son chancelier Wolsey pour discuter, etc., le pauvre pape avait eu l'envahissement de ses terres par les troupes de Charles Quint.
Et oui, et ça, bien
donc,
entendu.
Donc, il n'avait qu'une peur, c'était de déplaire
c'était
à Charles Quint.
C'était que l'empereur retraverse la Méditerranée
et
ne vienne même le mettre lui aussi sous séquestre.
Il a été un peu consigné. Et donc, il en avait une peur bleue.
Alors, ce qu'il y a de fascinant, on ne va pas revenir sur toutes les femmes d'Henri VIII. Il n'a pas eu de chance, il faut dire aussi.
Mais non.
Bon, il était quand même d'une grande violence, il faut le dire. Il y en a plusieurs qu'il a fait condamner à mort.
Il y en a
même
eu deux.
Bah, deux, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal. Oui, mais les gens, je lis tout le temps les six femmes qu'il a fait tuer.
Non, oui, enfin, alors, c'est
non
faux,
il y en a
faux,
deux.
Oui. Il y en a une qu'il a répudiée, une qu'il a fait condamner à mort, une qui est morte en couche, la peau. Une autre qui l'a fait condamner à mort.
Ah oui, mais elle le trompait comme il n'était pas possible.
Une qui l'a renvoyée chez elle parce qu'elle ne lui plaisait pas du tout, la Clève.
Alors ça, il ne l'a même pas touchée.
Oui, bon. Et puis la dernière, la pauvre, alors là, il en était très amoureux, mais c'est lui qui est mort cette fois.
Oui, mais je crois qu'il cherchait une infirmière. Hein.
Oui, c'est un petit peu ça. Bon, c'est son fils qui lui succède. Alors qui est-il, ce petit roi, Édouard VI?
Alors, Édouard VI, était un, contrairement à son père, était un vrai réformé. C'était pas seulement.
Il était né dans la réforme.
Né dans la réforme, il avait eu des érudits protestants pour son enseignement, donc il était complètement acquis à la réforme. Et à ce moment-là, le pays était dirigé par deux protecteurs qui eux-mêmes étaient acquis à la réforme. Donc là, il y a eu une marche vers le protestantisme, même plus appuyé que ce que ça n'a été sous Élisabeth, qui a fait une sorte de juste milieu. Alors lui, pas du tout. C'était vraiment le calvinisme, je dirais pas pur et dur, mais enfin, il était quand même, il correspondait avec Calvin, d'ailleurs, un des protecteurs.
Enfin, ce qui est terrible, c'est qu'on avait eu un roi qui, avec tous ses défauts et son égotisme extravagant, avait un immense personnage, qui avait été très bien entouré, hein, des gens comme Wolsey, comme Thomas Cromwell, enfin
Cromwell,
tous ces gens-là.
Cromwell, tous extraordinaires. Bon. Il a eu beaucoup de...
Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve avec un enfant mal entouré. On a l'impression que le trône est vacant.
Ah ben
quasiment.
Oui, c'est un peu ça d'ailleurs. Alors les protecteurs, le premier était... Bon, il était... C'était un érudit, c'était un rêveur. Bon, c'est pas du tout ce qu'il fallait pour le... Et l'autre, alors, un grippe-sou, type... enfin, qui a réussi à maintenir l'Angleterre dans la paix. C'est tout ce qu'on peut dire sur eux. Et alors, bien entendu, comme il est... tombé malade, il avait une santé très fragile, il est mort, et là, il y a eu l'arrivée de Marie Tudor, la Bloody Mary. Mais c'était programmé par le roi lui-même. Avant de mourir, il avait fait sa succession, et dans l'ordre, ce qui fait qu'elle a été respectée par le peuple anglais.
Oui, bien sûr. C'est quand même étrange, et c'est le dernier mot que nous dirons sur Edward VI, mais enfin tout de même, c'est étrange qu'il ait quasiment disparu de l'histoire britannique. Vous n'entendrez jamais les Anglais vous parler d'Edward VI.
Et lorsqu'il est là, par exemple, c'est lui qui a fait des traités avec le extraordinaire, des traités maritimes qui ont enrichi le pays, l'intercursus. Qui a vraiment modernisé la navigation complètement. Tous les traités aussi avec la Hollande, tout ça, enfin les Pays-Bas, c'est tout lui. Il a donné de l'argent et des lettres patentes pour que John Cabot, puisse aller en Amérique. C'était un homme extraordinaire. Et puis à la fin de sa vie, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est replié sur lui-même, sur la religion, mais la religion très... comment dirais-je, je ne dirais pas fanatique, il n'était pas fanatique, superstitieuse,
voilà.
Il se couvrait de médailles.
Extrêmement observante, oui, voilà. C'est assez étrange, hein, quand même. Mmh. Moi, je trouve que c'est un mystère historique et ça mériterait que cette énigme-là soit. Vous devriez creuser le chapitre Édouard VI, à mon avis, Liliane Créteil, il y a peut-être des choses à découvrir.
Oui, bien sûr, il y a eu quand même quelques bonnes biographies, mais peu.
Ensuite arrive la terrible, alors après le falot Édouard, grand règne, arrive la terrible Mary, petit règne, si je puis dire, pour simplifier un peu les choses. Et puis, à la fin de... Alors là, c'est là que j'en étais tout à l'heure. À la fin du règne de Mary, c'est l'heure d'Élisabeth.
Élisabeth, oui. Qui a régné très longtemps et qui a su trouver les gens pour la... William Cecil, entre autres, qu'elle a fait Lord Burghley, qui était un homme exceptionnel, qui l'a soutenue et qui s'est quelquefois battue contre elle parce que par moments, elle hésitait, elle était toujours un peu en train de tâter. Et puis alors, son amoureux, son premier amoureux
bien
aussi.
Bien sûr.
Robert Dudley, qui l'appelait le Sweet Robin.
C'est on l'appelle la Reine Vierge.
Oui, alors elle voulait qu'on l'appelle comme ça. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'elle l'a sacrifié parce que le seul homme qu'elle aimait, c'était... Dudley, qu'elle ne pouvait pas épouser. D'abord parce que il était beaucoup trop subalterne. Trop. Alors, déjà, ça passait pas, mais c'est surtout qu'il était marié et que sa femme était tombée mystérieusement dans un escalier et elle s'était rompu le cou. Tout le monde a dit autour, est-ce qu'il ne l'a pas fait tuer pour pouvoir avoir les mains libres pour épouser Elisabeth? Est-ce qu'Elisabeth y a pensé? On ne sait pas trop. En tout cas, pour William Cecil et tout son entourage, des gens sérieux, on dit impossible. Parce qu'il y aura toujours cette histoire de la...
Oui.
Donc, elle avait accepté de renoncer.
De toute façon, elle était d'un naturel totalement voué à l'abnégation.
Ah oui!
Pour elle, tout était pour le royaume, pour la grandeur de la couronne.
Absolument. Comme un prince de la Renaissance, un peu.
Oui, vraiment.
Il vient de sortir une biographie que j'ai lue il n'y a pas tellement longtemps, je ne sais plus qui montre justement Elisabeth en prince de la Renaissance, en Machiavel. Mais c'est intéressant. Et moi, je pense qu'elle a sacrifié sa vie sentimentale. Et voilà, alors elle jouait les coquettes. Hélas, elle a joué les coquettes quand elle était âgée, ce qui n'était pas heureux. Et puis, moi, je me demande aussi si elle ne voulait, en se mariant, même si elle restait la reine d'Angleterre, elle perdait un peu quand même de son pouvoir, ne serait-ce que quand elle aurait eu des enfants, elle risquait la mort. Alors, est-ce qu'elle a pensé à tout ça? C'est possible. Il n'y a pas une femme à cette époque qui ne pensait pas à la mort.
Avec elle finit la dynastie des Tudors.
Eh bien oui, puisqu'elle ne s'est pas mariée et après sont les Stuarts.
L'heure des Stuarts.
L'heure des Stuarts.
Mais ce sera
oui, il y en a eu deux.
Hein, ce sera le sujet d'une autre émission, si vous le vouliez, Liliane Créteil.
Oui.
Les Tudors de Liliane Créteil, somptueux album des éditions Duchesne, qui sort en ce moment en même temps que l'exposition. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces souverains britanniques.
Merci à vous de m'avoir invité.
Reste avec nous sur Europe 1 et Franck Ferrand, vous répondrez à deux questions aujourd'hui, celle de Sophie sur l'origine du mot shérif et celle de Thierry sur la poignée de main.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et ce sont deux questions qui vous sont posées cet après-midi, Franck Ferrand. Sophie vous demande via la page Facebook de l'émission quelle est l'origine du mot shérif et Thierry sur Europe 1.fr s'interroge sur l'origine de la poignée de main.
Alors, deux questions bien différentes. D'abord, l'histoire de la poignée de main. Vous savez que la poignée de main, ça a longtemps été un signe de paix, en vérité. Depuis l'Antiquité, il s'agissait d'un moyen de montrer à son interlocuteur qu'on n'était pas armé. On tendait la main droite. J'ai eu l'occasion d'expliquer ça l'autre après-midi chez Cyril Hanouna. En fait, ça montrait d'une part qu'on n'allait pas dégainer son épée, et bien entendu, et surtout qu'on n'avait pas caché un poignard dans sa manche. Ce qui fait d'ailleurs que très souvent, on se serrait les deux mains, et plutôt que les mains, on se serrait les avant-bras, disons-le. À Rome, c'était exactement la même chose, et l'on avait eu pour habitude de découvrir peu à peu, d'ailleurs, les avant-bras en signe de paix et de liberté. Alors, il y a aussi, et on possède des sculptures qui le prouvent, il y a aussi des poignées de main qui sont des poignées de main cordiales, pour ne pas dire même des poignées de main de fidélité amoureuse, sur un certain nombre de statues, et ce, dès la période grecque classique. Donc, le signe de cordialité de cette poignée de main figurait déjà dans la plus haute antiquité. Ça, c'est pour la poignée de main. Alors, le shérif, maintenant, vous allez me dire quel rapport ? Aucun. Le shérif, officier d'administration britannique à l'origine, on est dans une fonction qui est créée au Moyen-Âge. Hein. Le shérif, c'est l'équivalent du bailli en France. La fonction a été transposée par la suite en Amérique du Nord, hein, aux États-Unis, au Canada, et puis en Inde, en Australie. Le mot est la contradiction de deux termes anglais, shire pour circonscription administrative et reeve pour officier de la couronne. Le shérif, c'est celui qui est l'administrateur d'une circonscription. Rien à voir avec le titre de shérif accordé aux descendants du prophète, mais ça, je pense que vous l'aviez compris.